Every day I train.
Injuries can happen at any time.
It popped right off the bone. I knew it was torn as soon as it happened.
I've torn the pectoral muscle completely off my shoulder.
I've had surgery 5 times in my left knee.
I can't compare this pain to any other pain.
I heard something snap. I knew something was wrong.
Please, don't try this.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Wrestling Talk. Aujourd'hui, nous allons encore parler catch avec une équipe de folie. Bonjour Kevin, tu viens de nous rejoindre, t'es spécialiste catch féminin, parce qu'aujourd'hui, on va parler de catch féminin. Ça va Kevin ?
Ça va, bonjour à tous.
Ouais, j'accélère un peu l'intro parce que là aussi, c'est clair depuis quelques semaines. Donc tu nous rejoins parce qu'aujourd'hui, on va parler catch féminin. Toi, t'es un peu le spécialiste, tu peux nous parler un peu ce que tu fais sur Catch News, justement, d'où vient cette passion pour le catch féminin notamment ?
Alors, je fais les résultats de la TNA, de Lucha Underground, et, ouais. Et toutes les news et résultats liés au catch féminin, justement. Donc, j'ai commencé à regarder il y a pas mal d'années, et puis j'ai accroché, et puis j'ai continué. La WWE m'attirant de moins en moins, je me suis plus spécialisé là-dedans, en fait, au fur et à mesure.
Donc, c'est rare quand même des gens, des Français, des francophones qui sont spécialistes du catch féminin. Donc, on te remercie énormément d'être présent aujourd'hui. Aussi, des gens peu spécialistes, malheureusement, parce que quand on a le meilleur, on a toujours le moins bon. Bonjour, Anto WWE.
Et oh, je tiens à préciser que maintenant, je vais voir les shows de Femmes Fatales grâce à Kevin. Oui, c'est vrai.
Ça y est, tu t'intéresses enfin aux femmes.
Exact, il faut donner le crédit à Kevin là-dessus.
Comment tes parents ont accepté que tu devenais hétérosexuel?
Ça a été difficile, mais ça a été accepté.
Ça a été accepté. C'est vrai que dans la culture canadienne, c'est très compliqué, québécoise pour accepter. Avec nous, Slime de UWI. Enfin, si on peut appeler UWI, encore UWI. Bonjour, ouais. Slime.
Bonjour.
Voilà. Bon, t'as fait quoi? Bon, t'es pas accompagné par Bad Fab. Bad Fab nous a lâchement abandonné. Ouais. Ça va, tu te sens pas trop seul? C'est pas trop dur. Non ?
Ça va aller, on va faire avec.
Ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de catch féminin. Juste avant, je voulais et on tenait à vous remercier d'être aussi nombreux à nous écouter, notamment sur le dernier show qui a dépensé toutes nos espérances. On sait que quand on parle de mort, quand on parle de scandale, ça marche. Aujourd'hui, on va essayer de faire un sujet un peu plus sexy. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les anciens épisodes, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur une page qu'on vient de créer, Anto. Explique-nous, donne-nous l'adresse, dis-nous où on peut nous retrouver avant de parler vraiment catch.
Exactement. Donc, en fait, vous pouvez nous retrouver sur le site internet qui est thewrestling-talk.com. Donc, sinon, c'est sur Facebook. Le même nom, encore une fois. Mais si vous ne le trouvez pas, juste rajouter podcast à la fin, vous allez le trouver plus facilement.
Voilà, en fait, c'est pour retrouver tous les shows et pour pouvoir réagir sur le show et sur les anciens. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire du hashtag TWT. On arrête de parler parce que là, ça sert à rien de parler de nous. On va essayer de parler maintenant un peu de catch. Alors, on s'est posé la question avec l'équipe, cette fois-ci, de savoir quelle était la place de la femme dans le catch. Alors oui, ça peut paraître être un peu bizarre d'en parler au 21e siècle en 2015, mais ça nous a paru très important. C'est pour ça qu'on a intitulé ce show « De la lutteuse à la diva, une destruction catchesque ?» Justement, quelle idée là pour lancer, si vous deviez me citer dans votre tête, dans votre esprit, des catcheuses qui vous ont marqué ou quand vous pensez catch féminin, vous pensez à qui? Allez Kevin, t'es notre invité, quand tu penses catch féminin, tu penses à qui?
Daphné de WCW, TNA.
Ouais. Ouais, bah, on t'écoute.
Et voilà, c'est celle qui m'a plus marqué dès le départ en fait.
Il y a quoi, c'est quoi qui t'a marqué par
Je sais pas, le personnage, surtout, ouais. C'est surtout ça qui m'a attiré au départ. Après, à WWE, il y a forcément Lita, Trish Stratus.
Ouais, qui sont peut-être plus marquants pour les gens qui suivent la WWE.
Voilà,
Exactement,
ouais.
Effectivement. Anto, toi, si tu dois penser femme et catch, tu penses à qui?
Moi, je pense aussi à 100% satisfaction avec Trish Stratus.
Elle est canadienne aussi, il me semble.
Exactement, oui, exactement.
Et donc il faut voilà. Et toi, Slime, quand tu penses diva, tu penses quoi? Enfin, quand tu penses diva, tu vois déjà, je fais un lapsus. Voilà. Je fais un lapsus, je crois qu'on va y revenir. Catcheuse féminine, Tu penses à qui?
Je pense surtout à quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au catch. Donc, je pense surtout à Mickie James, Michelle McCool. Et...
Donc, plutôt la nouvelle génération des catcheuses.
Nouvelle ancienne.
Voilà. Alors, quelles sont les qualités pour être une catcheuse en tant que femme? Alors, ça, c'est la question qu'on a envie de poser. Alors, malheureusement, on n'a que des hommes. J'aurais voulu avoir une femme catcheuse ou non, d'ailleurs, mais spécialiste ou fan de catch pour en parler. Malheureusement, nous avons trouvé que des personnes avec un sexe masculin, comment dirons-nous. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut comme qualité pour devenir catcheuse, Anto?
Mais la question, tu parles aujourd'hui en 2015
ou... Aujourd'hui en 2015, oui.
Donc aujourd'hui en 2015, okay. Je dirais que ça prend une beauté physique exceptionnelle.
Mais justement, la beauté physique exceptionnelle, on y reviendra. Et pour toi, c'est le seul atout pour devenir une catcheuse aujourd'hui?
Si je regarde Monday Night Raw ou SmackDown, oui, je dirais que c'est ça.
C'est-à-dire que si on s'attache à la WWE, c'est le physique qui passe avant. On va en parler un peu plus, de façon un peu plus approfondie, sans mauvais jeu de mots, un peu plus tard. Kevin, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour devenir catcheuse?
Pour la WWE, c'est exactement ça. C'est avant tout le physique, ouais. Et après, pour ce qui est tout ce qui est indépendant, c'est plus les qualités techniques, de la même manière que les hommes, quoi.
Parce que, en soyant très honnête, toi qui connais très bien le catch féminin, est-ce que et je sais que je vais me faire taxer de macho et tout, est-ce qu'il y a des moches même dans l'indépendant? Soyons très sérieux.
Oui, on est dépendant, oui.
tu nous donneras des noms. Sign, qu'est-ce que pour toi définis la catcheuse actuellement de tes yeux de femme?
Actuellement, c'est comme on dit, principalement le physique. Hein. Après, il peut avoir le talent derrière, mais bon, c'est rarement le cas.
C'est rarement le cas. Ouais. Alors, justement, quand on parle catcheuse, quand on parle catch, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on pense WWE ou TNA. Il faut savoir qu'à la WWE, les catcheuses s'appellent Diva. Il y a une explication que tu as essayé un peu de donner tout à l'heure, Anto, quand tu disais il n'y a que le physique qui compte. Il y a bien eu des grandes catcheuses, on l'a dit tout à l'heure à la WWE. Alors, comment on explique cette évolution? Comment on explique cette situation des lutteuses à la WWE, qui est la principale compagnie? À la TNA, c'est particulier, mais ça y ressemble quand même grandement. Comment on explique cette situation, Kevin?
Je pense que la WWE, en fait, n'est pas tellement intéressée par donner un produit vraiment catch aux divisions féminines. Et c'est plus un peu pour remplir les cartes, en fait, boucher les trous, tout simplement.
Comment on est passé de Trish Stratus de Lita à des personnes comme Brie ou Nikki Bella, actuelle championne d'ailleurs des Divas? C'est quoi les glissements? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est tout simplement peut-être l'attente du public aussi, qui est peut-être pas forcément qui suit pas forcément le catch féminin.
Donc ça serait le positionnement peut-être.
Ouais, exactement. Et puis après, des Trish Stratus, c'est difficile d'en trouver aussi. Elle est très produit WWE, en fait. Elle est pas très technique, tout ça, c'est parfait pour WWE, quoi. Et c'est peut-être difficile à en trouver, justement, dès qu'ils sont à la fois bons sur le ring, physique, etc., quoi.
Donc, finalement, le physique passe un peu avant tout.
WWE
essaye de standardiser un peu le type de diva. Quel est ton sentiment, Anto, sur cet aspect? Comment expliquer la situation des lutteuses à la WWE, et plus précisément cette évolution entre une Trish Stratus, une Lita? Comment on l'explique?
Ben moi, je pense que j'ai vraiment vu l'évolution quand il y a eu le début des Diva Search, en fait. Je pense que c'est là qu'on a vu, quand le concours a commencé, mais qu'on a vu que l'importance était surtout l'aspect physique, puis peut-être un peu moins l'aspect technique. Je trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu plus l'aspect Diva arriver.
Justement, dans les prochaines semaines, je pense qu'on fera un show un peu tourné sur est-ce que le catch, c'est pas de la télé-réalité, finalement. Justement, tu parlais de Diva Search. C'est un peu le premier show de télé-réalité de la WWE. Tu dis que ça a commencé à standardiser. Justement, Slane, est-ce que tu penses que les changements aussi de personnages qu'on voit à la télé a amené les catcheuses de WWE à devenir de plus en plus stéréotypés?
Bah ouais, et puis c'est surtout pour... Quand on parle maintenant avec la PGR et tout, c'est surtout... C'est plus vendeur de mettre une fille, enfin une femme assez jolie avec de beaux atouts qu'une femme il y a, enfin je sais pas, comme les, enfin avant elle était encore belle, mais bon c'était pas le,
On sait que c'est pas nouveau, parce que quand même, il faut savoir que la place de la femme dans le catch, et là je parle dans le catch en général, a toujours été compliquée, mine de rien. Je parle de ton contrôle, Kevin, mais,
ouais, non, mais c'est ça, oui.
C'est-à-dire que même à l'époque, et même dans le catch qu'on va dire indépendant et tout, la place de la femme est assez particulière. Elle sert ou de faire valoir, ou de personne un peu sexy. C'est un sport presque 100% masculin, le catch. L'arrivée des femmes est arrivée relativement tard. Kevin.
Ouais, c'est ça. Ouais. À part dans le circuit indépendant, à part certaines fédérations qui font lutter des femmes contre des hommes, le reste, oui, c'est exactement pareil que la WWE, c'est quelques matchs ici et là, et voilà, il faut vraiment aller chercher dans les fédérations spécialisées pour...
Tu peux nous en citer 2-3 avant que, là, on continue notre débat.
La Scheimer, la Shine, la WSU, c'est les 3 plus grosses fédérations, donc... Il faut passer par là en général pour
réussir. Pour être impliqué dans les shows de catch, enfin, en tant que femme. Moi, je me rappelle d'une interview qu'un monsieur assez connu du monde du catch, Marc Mercier, m'avait donnée. Et je lui avais posé la question justement sur la place de cette femme. Cette interview est disponible encore sur YouTube, sur la chaîne de Catch News. Elle a été faite dans des conditions assez particulières, si vous l'écoutez, vous vous en rendrez compte. Et je lui avais posé la question de la position de la femme, et pour lui, dans son rôle d'un peu macho, hein, c'est le rôle aussi, il disait que les femmes n'avaient pas de la place sur un ring. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation? Alors, je ne vais pas commencer par Kevin, parce que c'est le plus intéressé par le cas. Anto, quand tu entends que des personnes qui pèsent un peu dans l'industrie, j'entends du catch en France, donc c'est particulier, disent ça, est-ce que tu penses que les mentalités ne sont pas un peu bloquées aussi?
Ouais, ben moi, pour être franc, je trouve qu'ils disaient de la merde, là, parce que moi, je pense que quand on va voir, mettons, un show à 100% femmes, moi, je trouve qu'il y a une étincelle supplémentaire. Je trouve qu'ils se donnent plus sur le ring. Je trouve qu'ils essaient de faire quelque chose de nouveau. Ils se renouvellent. Je trouve qu'ils se donnent à 100% sur le ring. À comparer que si on irait voir un show 100% masculin, je trouve que c'est un peu déjà, peut-être, du déjà vu ou du réchauffé.
Ouais, tu penses que les lutteuses. Peuvent apporter le petit grain d'étincelle, la petite étincelle qui manque à certains shows. C'est ça, finalement.
Exactement.
Merci. Merci de dire que c'est ça, exactement. Au moins, on avance dans le débat. Excusez-moi. Justement, Slime, je voulais te poser la question. Est-ce que tu as suivi cette histoire de Give a Chance, le hashtag qui a été lancé par les divas, très largement? Stéphanie Beckmann en a parlé lors du dernier podcast qu'elle a fait avec Chris Jericho, qui a été brillamment traduit par notre ami Anto, qui est disponible sur Catch News. Qu'est-ce que vous pensez des propos et de ce hashtag, justement, Slime, c'est Give a Chance, c'est ça, hein, ouais, donner une chance au diva. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou c'est intéressant pour la suite?
Bah, ça peut être intéressant en mettant plus de place aux divas, enfin aux lutteuses, pour montrer leur capacité. Elles sont pas là juste pour faire beau, pour montrer leur beauté ou quoi. Il y en a certaines qui ont un vrai talent, mais qui est caché justement par ce stéréotype de diva qui est là juste pour montrer sa beauté et tout.
Je sais que Mathias, c'est principalement ce qu'il regarde. Il n'est pas là, on le salue d'ailleurs. Il est sur son compte YouPorn actuellement. On voulait avoir ta réaction, mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Donc, on va se contenter de la réaction de notre cher ami canadien. Ce mouvement, hashtag, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a dit pendant le podcast? C'est justement que c'était en travail, puis que ça allait évoluer, puis ça allait se produire. Pour être franc, c'est à voir, là. Parce que si on regarde, mettons, Emma ou Summer Rae, mais par exemple, qui ont passé de NXT pour le roster principal, ils font plus rien présentement, alors qu'à NXT, ils offraient des combats de qualité de 10 à 15 minutes facilement.
Alors, justement, la place de la femme est très importante sur NXT. Est-ce que tu penses que c'est le renouveau féminin que la WWE attend, Kevin?
Pas spécialement, non, parce qu'en fait je pense que le niveau pour Raw, SmackDown, c'est pas du tout les mêmes attentes de la WWE. On a pu le voir par exemple à WrestleMania, ça a duré à peine 6 minutes, un match par équipe, sans enjeu en plus, C'est vraiment différent. Emma était vraiment mise en avant, avait un personnage. Et une fois arrivée à Raw, ils lui ont enlevé, quoi, puis ils l'ont mis avec Santino. Donc je pense que c'est vraiment pas les mêmes attentes, parce que c'est pas le même public en même temps. À NXT, c'est vraiment un public qui va souvent, qui connaît peut-être mieux ce qui
est. C'est plus de l'indépendant, finalement. Là.
Voilà, ça ressemble un peu, ouais, c'est complètement différent, j'ai l'impression. Et c'est pour ça, c'est un peu risqué, des fois, de passer entre les deux, de NXT à Raw. Ouais.
Alors, pour ne pas leur jeter totalement la pierre, il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant même, la WWE avait essayé d'introduire Awesome Kong, vous vous rappelez, qui était à la TNA. À la TNA, il s'appelle les Knockouts, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Ils avaient intégré, et on va dire qu'Awesome Kong n'a pas du tout un physique d'une cachette de WWE. Est-ce que c'est pour ça, au-delà de ses soucis personnels hein, qu'elle a eu, elle a été enceinte, elle a eu des soucis de santé, est-ce que vous pensez que c'était une volonté de changer un peu l'image des divas Anto?
Mais si c'est une volonté, ils l'ont pas continué. Ça serait quand même assez étrange. Là, parce que si on regarde, qu'est-ce qu'ils ont rentré par la suite? Ben, au niveau du roster, il y a eu Eva Marie, Jojo. Qu'est-ce qui est arrivé avec les deux? Les deux, ils ont fait 3-4 matchs. Merci, bonsoir. Ils sont retournés à l'école. Fait que je pense pas que c'était un vent nouveau avec Kong, moi, personnellement.
Est-ce que vous pensez aussi que les filles manquent de gimmick? Est-ce que vous pensez pas que c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir une gimmick? On le sait dans le catch. Est-ce que vous pensez pas que les femmes, notamment la WWE, manquent de gimmick? Slime?
Non, il manque pas de gimmick. Il manque de temps, j'allais dire. Après, c'est une question qui est récurrente. Hein. Le temps, c'est ce qui manque et tout. Mais après, les gimmicks... On peut en trouver plein et tout, mais justement, pour revenir à ce que Kevin disait avec NXT, c'est vrai qu'à NXT, entre NXT Raw et SmackDown, les attentes, c'est pas du tout les mêmes. Mais après, NXT est là justement pour entraîner les
futurs.
Même pas les futurs, c'est déjà des superstars dans leur NXT. Mais justement, après, vaut mieux, je trouve, que les divas et autres sont mieux utilisé justement dans les NXT et tout, comme les nouvelles divas comme Bayley, toutes les nouvelles divas, que les anciennes justement qui sont là depuis trop longtemps.
Justement, on parlait de temps, de place. Est-ce que vous pensez qu'avec la qualité physique et la qualité technique des divas qui sont actuellement dans le roster principal, elles seraient capables de fournir des matchs de qualité? Et vous, personnellement, est-ce que vous achèteriez un pay-per-view de la WWE, j'entends, que sur un match féminin? Soyons tout à fait honnêtes, Kevin.
Ils sont capables, lui. Après, il a déjà dans le roster principal qui en sont capables. Hein. Il y a Natalia, Emma, Paige, tout ça, qui ont déjà été à la Scheimer, etc. Et qui font pas forcément l'occasion de faire non plus des choses vraiment énormes sur le ring. On sait qu'il y a plusieurs qui sont capables de faire de bonnes choses. Après, c'est juste une volonté de la WWE. S'ils font un pay-per-view là-dessus, je pense que ça serait peut-être mieux, ouais, qu'ils auront le temps au moins.
Ils auront le temps, mais je suis pas sûr que le public adhère spécialement, parce que je pense que c'est aussi une construction sur le temps, la construction d'une superstar, le catch and win catches. Oui.
Mais surtout, si tu prends que les divas du roster principal, il y en a à peine 10. Donc faire un pay-per-view.
Pas spécialement un pay-per-view. Ça peut être un match de pre-main event ou un match important. C'est ce que je veux dire.
Ah ouais, là c'est différent. Mais bon, quand tu regardes à chaque fois au WrestleMania, on dirait qui cale toutes les divas dans un même match, comme ça, hop, c'est bon, on est tranquille.
Oui, mais c'est juste pour avoir la caution. Il faut savoir que la WWE a souvent été accusée de machisme. Bon, on revient un peu au débat du début. Tout à l'heure, Anto, tu nous disais que le basculement a eu lieu lors de Diva Search, lors de la première saison, lorsque la WWE s'est mise dans la télé-réalité et a stéréotypé un peu le style de femme, même si c'était déjà un peu stéréotypé à la base. Mais ça s'est rendu encore plus sur la télé-réalité qu'on peut voir actuellement dans les Secret Story pour les Français ou dans les jeux Big Brother pour les Américains. Donc, ils ont essayé d'aller toucher des gens, en fait, des gens un peu fantasmagoriques, c'est ça, un peu dans l'idée. Est-ce que vous pensez, et ça, je sais qu'on me pose souvent la question, et c'est pour ça qu'il n'y a que Kevin qui va répondre, parce qu'on connaît déjà vos positions, Anto et Slime, est-ce que tu penses que, justement, la télé-réalité Total Diva va dans le sens d'une amélioration de l'image des divas?
Oui et non, en fait, l'émission, j'ai rien contre elle. Je trouve qu'elle est plutôt bien, justement, pour faire connaître et peut-être faire accrocher le public aux différentes divas. Le seul problème que j'ai avec l'émission, c'est que la WWE l'utilise un peu trop pour faire sa promotion et nous fait des matchs par équipe tout le temps. Et c'est un peu le ouais. retour, quoi, de mauvais, le retour de bâton. Ah, quoi. Mais sinon, l'émission est plutôt sympa.
Ouais, ben je suis 100% d'accord, parce que moi aussi, pour l'émission, j'ai aucun problème, mais qu'est-ce qui m'a dérangé, c'est exactement comme toi, Kevin, quand on a eu le fameux combat, je pense que c'était Naomi ou Natalia qui était plus contente de la peinture qu'elle avait dessinée d'elle, juste parce qu'elle était pas belle, là. Puis ça, ils ont mis ça à Raw.
On les ramène quand même à leur image de pépette, qui savent pas faire grand-chose sur le ring, soyons tout à fait honnêtes, quand même. Soyons un peu pragmatiques et un peu méchants, c'est ça. Le show est sympathique à regarder parce que c'est un truc un peu drôle, tu vois un peu les coulisses, entre guillemets, hein, ça reste de la télé-réalité très écrite. Slime, justement, tu penses pas que ça, quand même, ça les enferme un peu dans leur rôle aussi, des filles qui se battent pour un bout de rouge à lèvres, quoi. Franchement, il faut être très honnête.
Ouais, c'est sûr. Après, Total Divas, ça reste vraiment une télé-réalité de tout ce qu'il y a de plus scénarisé, enfin, comme le catch, mais bon, après, ça reste vraiment dans leur domaine de montrer ouais, les divas dans leur j'allais dire dans leur milieu naturel, mais bon, dans
c'est malheureux d'avoir des réflexions comme ça, parce que ouais. sans te juger, parce que je pense qu'on est tous un peu dans cette idée, c'est voilà, mais c'est pour ça que tout à l'heure je parlais gimmick, mais je pouvais aussi partir dans les storylines, c'est qui m'a volé mon mec, qui est la plus belle, franchement. Ça réduit vachement
si on regarde le dernier match qu'il y a eu en pay-per-view, Naomi Nikki Bella, quand, si on suit une storyline, il n'y en a aucune.
C'est ça
le truc.
Et même la seule storyline qui aurait pu être intéressante, tu veux dire la dualité entre les deux sœurs, c'est arrêté d'un coup, on n'a pas trop compris pourquoi. Donc il y a une sorte de, c'est extrêmement bizarre. Bon, on va essayer de conclure un peu sur ce sujet. Avant de poser la question un peu fatidique, Kevin, c'est toi qui suis, comme je le disais, les shows principales de femmes. Si tu nous donnais 2-3 noms qu'on doit suivre et qu'on doit suivre aujourd'hui pour parler de catch futur féminin.
Alors déjà de niveau WWE, il y en a deux à NXT qui sont pour moi les deux meilleurs sous contrat actuellement WWE, c'est Bayley et Becky Lynch. Donc après, est-ce qu'elles seront bien utilisées, c'est autre chose.
Qu'est-ce qu'elles ont comme qualité particulière qui te plaît
Becky Lynch, déjà niveau technique sur le ring, tout ça, c'est pour moi la meilleure sous contrat. Elle était déjà au top en Indie. C'était blessé avant de signer la WWE, donc je pense qu'il faudra un peu de temps pour qu'elle revienne au niveau, mais c'est potentiellement une des meilleures. Et Bayley aussi, c'était très très bonne dans le circuit indépendant, et je pense qu'elle a plus d'avantages que Becky Lynch parce qu'elle a un physique peut-être plus mieux adapté à WWE peut-être.
Mmh. Et en indépendant,
Il y a Tessa Blanchard qui a commencé il y a pas longtemps dans les différentes fédérations, qui a l'air vraiment pas mal. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que la WWE s'intéresse à elle, vu que c'est une fille d'un ancien catcheur. Sinon, Mia Yim, qui a signé à TNA, qui est pour moi une des grosses futures catcheuses dans le circuit. Tyler Hendricks, Evie, Kaylee Ray, sinon.
Donc, t'en as plein en tête, donc c'est qu'un gros vivier aussi. Merci Kevin pour nous avoir donné ces noms qu'on essaiera de suivre de plus près. Pour conclure ce sujet, justement, quels sont vos espoirs pour les lutteuses, en quelques mots, de la WWE, parce qu'on parle WWE, quels sont les espoirs pour elles un peu plus tard, justement, pour conclure ce sujet?
Moi, j'espère qu'il va y avoir du temps, puis qu'il y a du temps de qualité pour qu'on puisse enfin enlever le stéréotype de quand c'est le match des divas, c'est la pause pipi.
Slime, justement, 2-3 mots, comme ça.
Bah voilà, Anto, il l'a dit, c'est la qualité. C'est bien d'avoir du temps, mais il faut la qualité qui va avec.
Et donc, Kevin, pour conclure, quels sont tes espoirs pour le catch féminin, du moins à la WWE?
Pareil, qu'elles aient du temps et des storylines. Des personnages, quoi.
Donc vous pensez qu'il y a du potentiel, il faut juste que la WWE fasse. A priori, Stephanie McMahon a dit que ça serait le projet des futurs shows. Nous verrons bien et nous reviendrons lors d'un prochain show lors d'un prochain show pour voir si ça a évolué, et Kevin, bien sûr, tu seras le bienvenu. Okay. Avant, voilà, on passe au deuxième sujet parce que je ne l'avais pas dit au début, mais on va aussi un peu parler de Extreme Rules qui s'est déroulé dimanche dernier. Et on va dérouler très rapidement un peu les résultats, donner un peu vos sentiments. Vu qu'on a Kevin pour la première fois, on va pouvoir aussi voir ce qu'il aime en type de catch. Ça va pouvoir vous cerner aussi pour la prochaine fois. Donc, Extreme Rules, tu peux nous présenter le pay-per-view. En gros, c'est quoi, Anto, Extreme Rules, le show Extreme Rules?
Un pay-per-view qui est entre guillemets supposé être extrême.
Assez extrême. En un mot, vous avez aimé ce pay-per-view avant qu'on dise un mot sur chaque match. Kevin, t'as aimé ce pay-per-view?
Personnellement, je le trouve assez soporifique ton pay-per-view.
Assez soporifique. Ah ouais, ouais. Direct. Slime.
Bah, ça reste un Raw. Un Raw.
Oh, ah, tu vois Oh, lapsus révélateur.
Encore un lapsus révélateur. Voilà. La qualité d'un Raw, voilà. Non, ça reste un pay-per-view post-WrestleMania sans vraiment grand intérêt des rematchs de WrestleMania ou quoi, voilà.
Et toi, Anto, justement, toi qui as fait des résultats en live sur Catch News, qu'on peut retrouver d'ailleurs encore, disponible.
Non, je n'ai pas aimé.
Tu n'as pas aimé? Alors, en fait, je vais être le seul à avoir trouvé le show assez moyen, mais pas si mauvais que ça.
Il n'est pas mauvais, mais c'est pas l'un des meilleurs, quoi.
D'accord. On va essayer de dérouler en quelques mots pour pas endormir les gens, justement, pour pas qu'on nous dise que ça soit soporifique. On commence par le premier match de la soirée, le Chicago Street Fight, Dean Ambrose versus Luke Harper. Vraiment, on va essayer de faire très court parce que sinon, on n'aura jamais le temps. Anto, sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Sachant qu'il a été coupé en deux, hein, donc on essaye de regrouper les deux actions. Je vais pas y revenir.
Ouais, ben, je suis justement un peu déçu du fait qu'il a été justement coupé et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 30 minutes. Là, je pensais qu'au moins qu'il allait nous faire accroire des faux vidéos de fans ou prendre des photos, mais on n'a eu rien du tout. Ils sont juste baladés en auto.
C'est ça. Moi aussi, j'ai été extrêmement déçu de ne pas voir ce qui se passe. On parle de Chicago Street Fight, donc street dans la rue, et finalement, on imagine qu'ils se sont battus. On imagine entre gros guillemets, et on n'a aucune image. J'aurais aimé voir une séquence même qui aurait pu être tournée avant
ou au moins le lendemain à Raw ou des trucs du genre.
Oui, d'avoir les photos, etc. Ouais, c'est voilà. Vrai que c'est assez décevant.
Si ils les ont mis sur YouTube ou quoi. Voilà.
C'est ça. Kevin, sur ce match en deux mots.
Pareil, ouais, je trouvais plutôt sympa l'idée de la voiture, tout ça, et finalement c'est assez retombé quand tu vois la fin. C'est assez décevant. C'était pourtant un bon show, de bonnes choses à faire pourtant avec tout ça, comme c'était parti, etc.
C'est la WWE. Et Slime, bah, sur la victoire de Dan Ambrose au-delà du match.
Bah, logique, de toute façon, la victoire de Dan Ambrose est un match pas mal du tout, hein, pour deux jeunes qui font un combat extrême, on va dire.
On peut pas dire qu'ils se soient pas donnés.
Ah ouais, justement, ils se sont bien donnés, ouais.
Sur la victoire de Dean Ambrose, Anto, en un mot.
Tant mieux, parce que sa série de défaites est terminée.
Ouais, donc toi, ça te plaît. Et Kevin?
Pareil, ouais, c'était peut-être temps qu'il gagne un peu en pay-per-view. Mais...
Enfin, c'est vrai que Dean Ambrose gagne enfin. Après, bon, le match est assez moyen du fait de cette coupure qui aurait peut-être mérité. Deuxième match de la soirée, le Kiss Me Arse match, avec ce magnifique jeu de mots qu'on a dû m'expliquer. J'avoue, donc, Arse, ça veut dire idiot en anglais, ou bébête. Et Arse aussi, on passe à As, qui est les fesses. Donc le but, c'est d'embrasser les fesses de l'autre, d'embrasser les fesses de l'idiot. Donc on pensait que c'était un jeu de mots justement pour pas que ça soit trop graveleux, mais en fait, si, ils devaient quand même se faire embrasser le cul sans enlever. Donc c'était un match contre Dolph Ziggler versus Sheamus, avec une victoire de Dolph Ziggler, mais finalement c'est Sheamus qui fait embrasser Dolph Ziggler ses fesses. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match en quelques mots aussi, Kevin?
Trop long. Surtout l'après-match, ouais, ça a duré trop longtemps entre la fin du match et la fin de tout court du segment, quoi.
Et le match en lui-même, tu l'as trouvé?
Le match était c'était assez moyen, quoi, de nos basiques, quoi.
C'était assez basique, ils ne se sont pas trop déchaînés. Anto?
Je suis déçu que ce soit par mettons, l'aspect PG, dans le sens que il se passait rien, mais dans le sens qu'il se cachait, il l'embrassait de dos pour être sûr qu'on voit rien.
Toi, t'aurais voulu que Sheamus ou Dolph Ziggler montre ses belles fesses. Je sais que
ouais,
ça t'excite.
Exact. Puis aussi ma déception que Sheamus ne respecte pas la stipulation, ça l'a un peu servi à rien.
Et finalement, c'est Dolph Ziggler qui se retrouve comme un con en train de l'embrasser la cuisse hein, de notre ami Sheamus. Slime sur le match en quelques mots.
On est à Extreme Rules, donc il faudrait quand même des trucs extrêmes. Quoi.
Pas de... pas... dans la bouche.
Tout ouais, non, pas un match basique, puis à la fin, le gars il gagne, c'est lui qui doit embrasser ses fesses. Mais en fait, non, c'est l'autre, non, c'est bon.
Ouais, mais bon, ça encore, c'est pas grave. Ah, le match était... Le problème, c'est que le match était très moyen.
Il était simple en fait.
Il était simple, il y avait pas
de problème. Ils auraient pu faire un Raw, un truc du genre, c'est tout.
Alors, on passe au prochain match, le WWE Tag Team Championship, un tag team match. Big E et Kofi Kingston accompagnés de Xavier Woods, donc les New Day, versus Tyson Kidd et Cesaro, qui étaient les champions, qui étaient accompagnés de Natalya. Ce match et ce changement de titre des New Day, qui sont donc les nouveaux champions, enfin Big E et Kofi. Réaction, Slime, hein, sur ce match.
Voilà.
Ouais, donc pas plus de détails.
Juste le niveau ouais. de Cesaro et Kidd qui est toujours au top.
Oui, voilà, il faut quand même dire que Cesaro, je suis pas grand fan de Kidd, mais Cesaro est quand même domine de la tête et des épaules tout le match. Hein, il faut être très honnête et d'ailleurs, ils lui font des spots rien que pour lui. Anto.
Moi, c'est sûr que je suis déçu du changement de titre parce que je suis un grand fan de Cesaro et Kidd, mais par contre, je dois avouer que le combat était très intéressant pour son aspect technique, même que j'étais presque au bout de ma chaise pour savoir qui allait gagner, tellement que je suis resté surpris de ce qui se passait, en fait.
Finalement, c'était le match avec le moins d'enjeux, le moins intéressant sur le papier et qui arrive à le truc, parce que c'est vrai que les tag teams, c'est pas non plus ce qui fait bander le plus de monde. Kevin.
J'attendais pas grand chose de ce match. Finalement, ça a été assez surpris. C'était pas le plus mauvais du show. Il était plutôt correct. Par contre, il faudrait vraiment qu'ils évitent de faire parler Big E parce que ça va pas.
Donc, et le changement de titre, assez ouais. déçu, Kevin.
Ouais, assez. Ouais. New Day, j'accroche pas vraiment. Donc.
C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu artificiel. Un peu comme Cesaro et Kidd d'ailleurs. Mais au moins, il y avait l'avantage de
Mais c'est, de surtout, c'est surtout. Oui, c'est Big E et Kofi qui ont gagné le match. Mais après, quand on regarde Raw ou quoi du lendemain, on voit que c'est Xavier Woods qui tient une des ceintures et tout. Donc,
oui, mais
deux ceintures pour trois, je sais pas, ça fait un peu beaucoup. Donc,
ouais, ils aiment bien faire des parties à trois. Ouais.
mais peut-être justement, peut-être que par la suite, à cause de ça, justement, qu'ils sont trois et que deux ceintures, peut-être, voilà.
Ça va peut-être créer des tensions. Belle analyse de Slime. Ah, merci, ouais, Slime. Oui. Prochain match, l'United States Championship, un Russian Chain Match. Alors, Russian Chain Match, parce que c'était des chaînes qui venaient de Russie. Made in Russie. Donc, c'était Rusev, accompagné de Lana, versus John Cena, qui est champion des États-Unis et qui le reste, au bizarre, au étonnant, au incroyable, après une victoire à WrestleMania. Ce match, voilà, hein, Anto.
Ouais, mais moi je suis un peu un fan des combats du passé, puis ce type de combat-là, je l'appréciais pas dans le passé, fait que je l'ai encore moins apprécié aujourd'hui.
Il t'a fait un peu chier ou c'est quoi concrètement? On n'a rien vu, faut être très honnête. Finalement, c'est un peu c'est redondant un peu par rapport à WrestleMania. Kevin.
Ouais, pareil, c'était un peu assez lourd à regarder, puis Senna, ils font un peu la spéciale de Senna qui enchaîne tout le temps des matchs de stipulation après WrestleMania, qui finit en high quick tout le temps quasiment. Mais ouais, celui-là, c'était un peu chiant et je me dis que le prochain, ça va être encore pire.
Ouais, le problème, c'est que ça va durer. C'est ça, le problème, c'est que ça va durer avec cette implication peut-être dans la... j'ai perdu dans l'autorité de Rusev qui était plus ou moins, mais qui va revenir un peu en tête. Slime, sur le match.
Bah, ça reste un strap match plus basique, hein, sauf que là c'est des chaînes et ça fait un petit peu plus mal quand même. Donc, puis la qualité du match, pas grand chose. Mais je me posais la question sur Cena. Il me semble que le tout premier titre de Cena à la WWE, c'était le US.
Tout à fait.
Et justement, là, il récupère le US. Donc, est-ce que ce ne serait pas le début de la fin, justement, qu'il a...
Non, je pense que tu vas trop loin. Ils ont donné le titre intercontinental à Daniel Bryan.
Non, mais justement, vu que Cena est là depuis longtemps, et justement, sa première ceinture, sont vraiment son tout début, c'était US. Donc, pourquoi pas
Il a été champion US au début. Là, je parle sur votre contrat. Il n'a pas été champion US après. C'est que son deuxième titre de champion US, Anto.
Là, c'est une bonne question, mais moi je pense que oui.
Ah, donc, semble aussi,
Donc tu vois, ce serait bien, tu vois, pour moi, ma vision, ce serait, tu vois, qu'il aurait bouclé la boucle. Tu vois.
Ouais, mais après, c'est honnêtement, j'y crois absolument pas. Je pense que c'est une stratégie, peut-être comme ça avait été dit dans d'autres shows, de remonter les ceintures ou du moins de les mettre en carte, en milieu de carte, de façon légitime. On passe au match des Divas. On parlait d'Iva tout à l'heure. Donc, c'était Nikki Bella. C'était pour le titre, quand même. Cette fois-ci, à WrestleMania, il n'y avait pas de titre. Et là, il y a le titre. Nikki Bella, qui est championne, accompagnée de Brie Bella. Bien, pourquoi pas. Versus Naomi. Nikki Bella reste championne. Voilà. Est-ce que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, Kevin?
Ouais, assez. Ouais. Et puis le match, franchement, était largement. Ouais, largement. Ouais. Et puis. Voilà, ça fait un peu ça occupe le public qui peut aller chercher des pop-corn pendant
donc,
le match.
Ça et puis illustre voilà. Exactement ce que le débat de tout à l'heure. Sline.
Bah, c'est ça, c'est le match post-pipi de la soirée. Hein, donc, et, le moment...
temps... ouais. Et en même temps, est-ce que tu es triste que ce soit le cas? Est-ce que tu aurais voulu voir plus de Nikki versus.
Pour Nikki, ouais, ça peut être mieux, mais bon, après, pour Naomi, la meuf là, on la voit pas. On la voit rarement catcher et tout. Donc, elles sont là juste pour un total diva, hop, c'est tout, et puis voilà.
Et en tout, justement, est-ce que tu trouves que c'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure?
Oui, c'est un très bon exemple. Je pense que la nouvelle entrée de Naomi illustrait bien la qualité du combat qu'on allait avoir, c'est-à-dire
D'accord, merci pour cette analyse. Donc, Nikki Bella qui reste championne. On passe au Last Man Standing Match. Big Show versus Roman Reigns. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé d'eux? Peut-être meilleur match de la soirée, soyons tout à fait honnêtes.
Ah oui,
Anto. Ah ouais, mon meilleur match de la soirée, c'est pour te dire le niveau des autres. Mais j'ai aimé moi ce pay-per-view, j'ai trouvé assez marrant. Anto.
Oui, mais moi aussi, mais je suis d'accord sur le fait que c'était le meilleur combat de la soirée. Encore une fois, un peu comme le tag team, mais je m'attendais presque à rien. Puis je trouve qu'il y a pas eu de temps mort, ça s'est très bien déroulé, puis même aspect technique. Big Show m'a surpris.
Big Show m'a surpris. Alors, il faut savoir que Big Show, quand même, était en top de WrestleMania. Il se retrouve contre le main eventer de WrestleMania à Extreme Rules. Il faut pas trop chercher la logique. Il y a eu une montée, une descente. Bon, Big Show, je trouve, égal à lui-même. D'habitude, je m'attendais à un truc très lent et tout. Je trouve que tout ce qu'il devait a été super bien exécuté, notamment lorsqu'il lui fait son choc slam sur les tables à l'extérieur, très bien exécuté. Les prises aussi qui ont été faites sur les tables des commentateurs, très bien exécutées. Roman Reigns, malheureusement, je l'ai trouvé un peu, il subissait un peu trop. Et c'est vrai que c'est un peu lourdeau quand même, mais le match était bon. En deux mots, Kevin.
Ouais, il était bon. Ouais, c'était sans doute le meilleur de la soirée, sans doute, avec le match par équipe. Et puis voilà, après la fin est un peu bizarre, avec leur étape qui se retourne et tout, mais voilà, on sent c'est plutôt cool. Ouais.
On a déjà vu pire. Slime, je t'ai demandé ton
Non, bah non, mais. Enfin, je vais être sincère, j'ai même pas regardé les matchs. Donc, j'ai regardé en replay, je l'ai même pas regardé. Sur Facebook et tout, j'ai pas vu beaucoup de retours ou quoi sur le match là. J'ai vu plus des retours sur les autres matchs, mais pas sur celui-là. Donc je me suis dit.
Eh bien, c'est bien dommage. Il y en a qu'un qui doit le regarder, c'est celui-là. Donc ferme ta gueule parce que tu l'as pas vu. on enchaîne sur le mail event. Je vous passe l'intervention de Ryback et de Boliv et de Baudalas. On a rien à branler. Pour le titre de champion du monde par équipe, champion du monde, pardon, poids lourd de la WWE, en steel cage match, Randy Orton versus Seth Rollins accompagné de la GNG Security. Avec l'intervention du magnifique Kane en costard qui n'est plus en costard. Très rapidement sur ce match, il n'y a rien à garder, soyons tout à fait honnêtes. Anto.
Moi, je me suis posé la question à quoi les deux stipulations servaient si le Steel Cage Match avait été choisi pour empêcher les interventions, puis on a eu un festival d'interventions, puis pourquoi avoir banni le RKO si après on a eu droit à un RKO, mais d'une autre personne.
Il a fait le RKO sur Kane.
Sur Orton.
Et oui, Orton, et c'était le seul qui avait le RKO banni.
Même avant le combat, ça a été très bien annoncé, le RKO est banni du match.
Non, de la part de Randy Orton.
J'écoute la présentation avant le combat. Je l'ai réécouté en direct deux fois.
Tu as raison, dans la présentation qui est faite au micro, ils disent que le RKO est banni. Cependant, quand on a fini RKO, on l'a fait lié à la frise de finition de Randy Orton. Donc, c'est pas illogique que Seth Rollins puisse l'utiliser. N'allons pas jouer non plus sur les mots, mon cher ami canadien.
Je trouve ça absurde.
Et justement, le lendemain, où je... ouais, il me semble, le lendemain, Seth Rollins s'est justifié en disant que ce n'était pas un RKO, mais un SKO.
En plus.
Justement,
il joue sur les mots.
Et oui, il joue sur les mots, mais comme nous. Ouais. Ouais.
Kevin, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on met Kane en avant dans... pour un match, c'est un peu foutu dès le départ, j'ai envie de dire.
Très con. Alors, moi, il faut être très honnête, et après on conclut parce qu'on est très en retard. Randy Orton, ça fait deux matchs que je trouve, il s'est amélioré techniquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a pris des cours. J'en sais rien.
C'est ses coups de gère, je crois, ses protections, ça l'a...
Ah, j'en sais
ça
rien.
Ça l'a changé.
Ça a peut-être libéré, mais je trouve que Kane, ouais, sur un ring depuis deux matchs, depuis WrestleMania, arrive à faire des trucs comme je pensais qu'il... Ça faisait 20 ans qu'il n'arrivait pas à faire. J'exagère, ça fait pas 20 ans qu'il est sur ring. Ça fait 10 ans qu'il n'arrivait pas à faire. Et là, en deux matchs, il a prouvé qu'il pouvait faire autre chose. Donc, c'est assez important. Seth Rollins, il est inexistant durant le match, à part deux, trois interventions. Kane qui gâche un peu tout. Finalement, le match était assez mauvais parce que ça donnait pas de tous les côtés, trop d'interventions. Et de toute façon, les Steel Cage match, c'est rare que ça soit des bons matchs. C'est moi qui vais conclure parce qu'on est très, 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 très en retard. Je vous remercie d'avoir débattu sur la place des divas dans le catch. Je vous remercie aussi pour votre analyse de Extreme Rules avec cette belle accent magnifique. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TWT ou nous rejoindre maintenant sur la nouvelle page officielle sur Facebook du The Wrestling Talk. On vous embrasse. Embrassez vos fans, les amis. Kevin, embrasse tes fans.
Salut, bisous. D'accord. À tous.
Slide, embrasse tes fans, pas tes femmes, tes fans.
Ah bah, mes femmes aussi, j'aimerais bien. plein de poutous et tout, à tous.
Plein de poutous de la part de voilà. Slide, envoyez un hashtag TWT si vous voulez avoir son adresse mail. Et Anto, le Canadien, le plus beau, le plus fort, le plus, je sais plus quoi, embrasse tes fans du pays où il fait froid, où on bouffe du caribou.
Oh, moi, j'aimerais remercier toutes les dizaines de personnes qui me suivent pour les résultats en direct et qui participent à la discussion avec moi.
Ah, merci. Il vous offrira un échantillon de son sperme si vous et le hashtag TWT. Pour ma part, on se retrouve, pour notre part, on se retrouve dans 15 jours. Je vous remercie, je vous embrasse, portez-vous bien. Et puis, comme on dit chez moi, Yallah, mais je ne suis pas juif ni arabe, donc c'est bizarre. Ciao, au revoir.